Chapitre 37. Peu de jours après cette rencontre, les papiers publics annoncèrent que Madame Charlotte Palma, femme de Monsieur Thomas Palma, écuyer, était heureusement accouchée d'un fils. Très intéressant article pour la bonne grand-mère Jennings, qui le savait déjà, puisqu'elle avait assisté à la naissance du petit héritier, mais qui n'en eut pas moins de plaisir à le lire sur les gazettes. Cet événement, qui la rendait heureuse au suprême degré, produisit quelques changements dans l'emploi de son temps et dans la vie de ses jeunes amis. Elle voulait être autant que possible auprès de la nouvelle maman et de ce cher petit nouveau-né, qu'elle aimait déjà à la folie. Elle y allait chaque matin dès qu'elle était habillée et ne rentrait chez elle que très tard dans la soirée. Elle pria sa fille aînée, Lady Middleton, d'inviter Mesdemoiselles Dashwood à passer de leur côté toute leur journée chez elle à Conduit Street. Elles auraient bien préféré rester au moins la matinée dans le salon de Madame Jennings, mais elles n'osèrent le demander, ni se refuser à l'invitation polie de Lady Middleton. Elles passèrent donc leur temps avec cette dame et les demoiselles Steeles, qui ne leur plaisaient ni à l'une ni à l'autre, et qui ne sentaient pas non plus le prix de leur société. Lady Middleton se conduisit avec une extrême politesse, faisait des compliments sans fin, des cérémonies très ennuyeuses, mais dans le fond, elle ne les aimait pas. D'abord, elle ne gâtait ni ne louait les enfants. Puis, elle aimait la lecture, que Lady Middleton ne regardait que comme une chose qui fait perdre du temps. Aussi trouvait-elle Elinor trop instruite, trop raisonnable, quoiqu'elle n'affichât jamais l'instruction et qu'elle ne fît point parade de sa raison. Comme elle passait pour être à la fois bonne, spirituelle et bien élevée, Lady Middleton croyait qu'elle était la seule dont on pût vanter le bon ton et la bonne éducation. Elle trouvait Maria capricieuse et satirique, sans trop savoir peut-être ce que signifiaient ces deux mots. Mais enfin, comme elles étaient en visite chez sa mère, qui les lui avait recommandées, elle les accablait d'honnêteté, d'attention. Au grand désespoir des deux Steeles, qui croyaient que c'était autant qu'on leur ôtait et qu'elles seules avaient droit à l'amitié de leur cousine, Lady Middleton. La présence des demoiselles Dashwood les gênait. Lucy s'était bien aperçue que ces flatteries continuelles leur faisaient pitié et n'osait en leur présence s'y livrer sans retenue, comme à son ordinaire. Mademoiselle Anna était celle qui en souffrait le moins. Il n'aurait même tenu qu'à Mesdemoiselles Dashwood de la captiver entièrement. Elle n'aurait eu pour cela qu'à lui confier en détail l'histoire de Willoughby et de Maria, dont elle était fort curieuse, et la plaisanter sur M. Donavar, le médecin de la maison, qu'on faisait venir pour des maladies souvent imaginaires, et sur qui la grosse Anna avait fondé toutes ses prétentions. C'était alors l'éternel sujet des railleries de Sir George. « Docteur, disait-il quand Donavar entrait, tâtez, je vous prie, le pouls de Mademoiselle Anna. Vous allez le trouver bien ému. Voyez comme son teint s'anime. Elle a beaucoup de fièvre, j'en suis sûr. Et votre pouls, docteur, n'est pas beaucoup plus tranquille. » Alors Anna baissait ses petits yeux d'un air enfantin et modeste, puis les relevait tout pétillants sur le docteur. En général, elle n'était jamais plus contente que lorsque Sir George commençait à parler de lui. « Il y a 3 jours que le docteur n'est venu, Anna, lui disait-il. Vous allez en maigrir. Faites pleurer Williams ou Selina, leur maman l'enverra bientôt chercher. Il ne demandera pas mieux que d'avoir un prétexte de vous rendre ses hommages, etc., etc. » Elle écoutait cela avec délice et ne doutait pas d'avoir fait cette conquête. Elinor, qui souffrait de l'avoir tournée en ridicule, se taisait. Et Anna, à qui ce silence déplaisait, était tout près de la croire jalouse de sa conquête du docteur. Quand Sir George dînait dehors, ce qui arrivait assez souvent, la pauvre Anna passait la journée sans entendre d'autres plaisanteries sur le docteur que celles qu'elle se faisait à elle-même. Ces petites jalousies, ces petits mécontentements, étaient si ignorés de Madame Jennings qu'elle croyait que ces 4 jeunes filles se délectaient d'être ensemble, et tous les soirs, en revenant, elle félicitait ses jeunes amies d'avoir encore échappé ce jour-là à la société de la vieille grand-mère. Elle les rejoignait quelquefois chez Sir George, d'où elle venait donner à sa fille aînée des nouvelles de l'accouchée que l'indifférente Lady écoutait à peine. Mais n'importe, Madame Jennings allait son train. Elle attribuait le rétablissement de Charlotte à ses soins et donnait sur la mère, sur l'enfant, des détails minutieux qui n'intéressaient que la curiosité d'Anna. Heureuse d'entendre parler de son cher docteur, qui était aussi celui des Palmois, Anna, pour prolonger la conversation sur un sujet qui lui plaisait, racontait à son tour ce que le docteur lui avait dit à ce sujet. « Ne vous a-t-il pas parlé, s'écriait Madame Jennings, de mon petit-fils? Quel bel enfant! Comme il est gras et beau! C'est un petit ange! Il ressemble à Charlotte et à Palma. Mais une seule chose m'afflige. Son père assure que tous les enfants de cet âge sont de même, et ne veut pas convenir que le sien soit le plus bel enfant du monde. Sans vous déplaire, Mary, vos enfants sont très bien, mais n'approche pas de celui-là. » « Il est impossible, dit Lucie en caressant la petite, que rien n'égale en beauté Célina. » Lady Middleton, un peu consolée, lui accorda toutes ses bonnes grâces et lui fit un joli présent dans la soirée, de manière que Lucie trouva le rôle de flatteuse bon et facile. La liaison qui s'était établie entre les maisons Middleton et Dashwood occasionnait de fréquentes rencontres. Un jour qu'Elinor et Maria étaient en visite chez leur belle-sœur, il y vint une dame du haut rang qui, ne connaissant point les particularités de cette famille, ne mit pas en doute qu'ils ne logeassent ensemble. Deux jours après, cette dame, donnant un concert, envoya chez Madame John Dashwood des cartes d'invitation pour elle et pour ses belles-sœurs. Madame John n'y vit d'abord que le désagrément de leur envoyer sa voiture et l'ennui de les y accompagner. Lady Middleton n'y étant pas invitée, elle ne pouvait y aller seule. Fanny se promit bien de dire à tout le monde que ses belles sœurs ne logeaient pas chez elle. Maria, par habitude de faire le jour ce qu'elle avait fait la veille même, et par l'indifférence qu'elle mettait à faire une chose plutôt qu'une autre, avait été amenée par degrés à reprendre le genre de vie de Londres et à sortir tous les soirs sans attendre ni désirer le moindre amusement, et souvent sans savoir jusqu'au dernier moment où elle allait. Sa toilette l'occupait si peu que si sa sœur n'y avait pas pensé pour elle, elle serait restée dans sa robe du matin. Mais quand, après un ennui qu'elle supportait à peine, elle était enfin parée, commençait un autre supplice. C'était l'inventaire que faisait Anna Stills de toutes les pièces de son ajustement l'une après l'autre. Rien n'échappait à son insatiable curiosité et à sa minutieuse observation. Elle voyait tout, touchait tout, elle voulait savoir le prix de tout. Elle calculait le nombre de robes de Maria, combien le blanchissage devait coûter par semaine et à combien sa toilette devait lui revenir par an. Maria en était excédée, mais ce qui lui déplaisait plus encore était le compliment qui suivait toujours cet examen. « Eh bien, Miss Maria, vous voilà très bien mise et très belle encore, quoi qu'on en dise. Consolez-vous, c'est moi qui vous le promets. Vous allez faire encore bien des conquêtes et tous les jeunes gens ne seront peut-être pas légers, perfides. » « Mademoiselle Elinor est très bien aussi. À présent que vous avez si fort maigri, on ne dirait pas qu'elle est l'aînée, et elle aura bien sa part d'adorateurs. » Avec de tels encouragements, elles attendaient ce soir-là le carrosse de leurs frères. Comme elles étaient prêtes, elles y entrèrent sur le champ, au grand désespoir de Fanny, qui avait espéré qu'elle ne le serait pas encore et qu'elle pourrait rejeter le retard sur ses belles sœurs. Les événements de cette soirée ne furent pas remarquables. Le concert d'amateurs était, comme ils le sont tous d'ordinaire, extrêmement médiocre, quoiqu'elles fussent convaincues, ainsi que la dame qui les avait rassemblées, d'avoir entendu les premiers talents d'Angleterre. Au reste, à Maria Pré, qui était très forte sur le piano, mais qui ne faisait nulle attention à la musique, le reste de l'assemblée était peu en état d'en juger. On était là plutôt pour voir et se faire voir que pour écouter. Aussi Elinor, qui n'était point musicienne et n'y avait nulle prétention, ne se fit pas scrupule de détourner les yeux de l'amphithéâtre de musique pour regarder d'autres objets. Dans le nombre des femmes, elle en remarqua une à l'excès de sa parure, d'ailleurs très peu jolie mais grande et bien faite, et entourée de tous les élégants, parmi lesquels elle eut bientôt reconnu Robert Ferrars à son costume exagéré et à sa lorgnette, qu'il dirigeait sur toutes les femmes avec une fatuité insupportable. Bientôt son tour vint d'être regardé, et Robert lui-même s'avança avec nonchalance et s'assit à côté d'elle. « Bonjour, ma vieille connaissance, » lui dit-il d'un ton léger. « Monsieur, vous vous méprenez sans doute, » lui dit Elinor, surprise de ce ton. « Je n'ai pas l'honneur de vous connaître. » « Allons donc, vous plaisantez. N'avons-nous pas passé une heure ensemble chez Grace l'autre matin ? Je vous ai trouvé l'autre soir chez votre frère, qui, je crois, est le mien aussi. Ainsi vous voyez que nous sommes intimes. D'ailleurs, dit-il en souriant, d'un air qu'il croyait bien fin, je suis aussi le frère d'Edward, et l'on assure que vous ne le haïssez pas, et qu'il est encore plus que moi votre ancienne connaissance. Monsieur, je ne hais personne, et nullement Edward Ferrars, que j'aime et que j'estime depuis longtemps. Eh bien, d'honneur, c'est très naïf, dit Robert en éclatant de rire. Vous me prenez pour confident, je suis peu accoutumé à ce rôle, mais je m'y ferai. Et en ami, je veux vous donner un conseil. C'est de ne plus penser à Edward, sa mère a d'autres vues. D'ailleurs, il est impossible, absolument impossible, que vous le trouviez aimable. Monsieur, dit Elinor avec fermeté, sans avoir sur lui aucune prétention qui puisse contrarier les vues de Madame Ferrars, je trouve son fils aîné très aimable, et il me le paraît plus encore depuis que je le compare à d'autres. Ah bien, par exemple, c'est très plaisant ce que vous dites là. On ne s'attendait pas à ce qu'Edward gagnât à être comparé à d'autres. Allons, convenez qu'il est impossible d'être plus gauche, plus maussade, mise avec moins de goût. Il faudrait une étrange prévention pour nier cela. J'ai cette prévention, monsieur, et malgré votre éloge fraternel, je persiste à la croire très bien fondée. Allons, allons, vous plaisantez, je vois cela. Je puis vous offrir une pastille, mademoiselle Dashwood ? Dit-il en ouvrant une petite bonbonnière d'écailles blondes à étoiles d'or. À propos, n'avez-vous pas envie de voir la boîte à cure-dents que je commandais l'autre jour ? Délicieuse, parole d'honneur, elle a réussi à ravir. Grace est unique pour saisir mes idées. Mais, pardon, Madame Willoughby m'appelle. Madame Willoughby ? S'écria Elinor. Où donc est-elle ? Là, cette femme si bien mise ! Personne à Londres ne se met comme elle. J'excepte cependant cette charmante toque que je vis l'autre soir à je ne sais qui. Vous y étiez, je crois. D'honneur, cette coiffure m'a tourné la tête. Comment se nomme la jeune personne ? Mademoiselle Lucy Steeles, l'une des nièces de Monsieur Pratt, chez lequel votre frère a demeuré. Ah Dieu, Monsieur Pratt ! Ah, je vous en conjure, mademoiselle ! Si vous ne voulez que je meure de vapeur, ne me parlez pas de Monsieur Pratt ! C'est grâce à lui qu'Edward est si complètement maussade. Je l'ai souvent dit à Madame Ferrars, ne vous en prenez qu'à vous, ma mère, si votre fils aîné est à peine présentable dans le beau monde. Si vous l'aviez envoyé comme moi à Westminster, au lieu de le mettre aux soins de Monsieur Pratt, vous voyez comme il serait. Elle est convaincue de son erreur, mais c'est trop tard, le pli est pris. Elinor ne répondit rien, elle n'aurait pas voulu qu'Edward ressemblât à son frère, mais son séjour chez l'oncle de Lucy Steeles ne lui était guère plus agréable. Enfin, l'élégant Robert la quitta et lui fit plaisir. Elle était sur les épines en pensant que Maria pourrait voir Madame Willoughby ou seulement entendre son nom et que Willoughby peut-être était lui-même dans le salon. Cependant, elle ne l'avait point aperçu. Elle regarda encore, il n'y était pas. Maria, émue par la musique, plus rêveuse, plus mélancolique encore qu'à l'ordinaire, n'avait rien vu, rien entendu. Elinor aurait voulu la prévenir, mais elle n'était pas à côté d'elle. Heureusement que Fanny, qui n'aimait pas la musique et qui s'ennuyait, avait demandé ses chevaux de bonne heure, elle se retira avec ses belles sœurs avant la fin du concert, et sans que Maria se fût doutée que Madame Willoughby y était. Elles laissèrent à leur porte M. et Madame Dashwood et retournèrent chez Madame Jennings, qui les attendait. Le soir même, M. John Dashwood eut avec sa femme un entretien aigre-doux qui avait pour objet Mesdemoiselles Dashwood. Pendant le concert, qui ne l'amusait pas plus qu'elle, il avait eu le temps de réfléchir, et une idée l'avait frappé. La maîtresse de la maison, Lady Denison, avait supposé que ses sœurs demeuraient chez lui. Il était donc convenable qu'elles y fussent, et il manquait au devoir d'un frère en laissant ses sœurs loger et manger chez des étrangers. L'opinion avait un grand pouvoir sur lui. D'un autre côté, sa conscience lui reprochait si souvent de n'avoir point tenu la promesse faite à son père, qu'il crut devoir l'apaiser en les prenant quelque temps chez lui. La dépense d'ailleurs ne pouvait être considérable. Elinor était petite mangeuse et Maria si languissante. À peine furent-ils rentrés qu'il en fit la proposition à sa femme, qui en frémit de tout son corps et tâcha de parer le coup. « Je ne demanderai pas mieux, mon cher John, vous savez combien j'aime tout ce qui tient à vous, mais dans ce moment-ci, je craindrais d'offenser Lady Middleton, chez qui elles passent toute leur journée. Il serait peu décent de la priver de leur compagnie. J'en suis fâchée, car vous voyez combien j'aime à être avec vos sœurs, à les produire dans le monde, à leur prêter ma voiture. Oui, oui, je vous rends justice, chère Fanny, mais dans cette occasion, je ne me sens pas la force de votre objection. Elle ne demeure point dans la maison de Lady Middleton, et sous aucun rapport, elle ne peut être fâchée qu'elle vienne passer quelques jours chez leur belle-sœur. Vous voyez que tout le monde pense que cela doit être ainsi. Oui, oui, Lady Denison qui ne sait ce qu'elle dit. Enfin, mon cher, vous avez toujours raison, et je crois comme vous que cela conviendrait. Mais malheureusement, j'ai invité Mademoiselle Steels à passer quelque temps avec nous. Ce sont de bonnes filles, très complaisantes, point gênantes, dont on fait tout ce qu'on veut, et c'est une attention que je leur devais, mon frère Edward ayant été élevé chez leur oncle Pratt, ainsi que je l'ai appris l'autre jour. Nous pouvons avoir vos sœurs quand nous voudrons, soit en Hollande, soit un autre hiver à Londres. Peut-être Mesdemoiselles Steels n'y reviendront plus. Enfin, je les ai déjà invitées, et plus elles sont dépendantes et sans fortune, plus on leur doit d'égards. Vous qui avez tant de délicatesse, de générosité, mon cher John, vous sentez cela mieux que personne, j'en suis sûre. J'ai aussi la certitude qu'elles vous amuseront beaucoup. Plus que vos sœurs, elles sont gaies, aimables. Ma mère est passionnée de Lucie, qui est la favorite de notre cher petit Henri. Que répondre à de tels arguments ? M. Dashwood fut convaincu. Il convint de la nécessité d'avoir les demoiselles Steels et sa conscience s'apaisa par le souvenir du beau dîner qu'il avait donné au colonel Brandon et par l'espoir que l'année suivante, Elinor serait Madame Brandon, aurait une bonne maison à Londres et que Maria vivrait avec elle. Fanny, tout à la fois contente d'être échappée au malheur d'avoir ses belles sœurs et fière de l'esprit qu'elle y avait mis, écrivit le lendemain matin un billet à Lucie qu'elle antidata de 2 jours et où elle la priait, ainsi que Mademoiselle Anna, de lui faire le plaisir de venir passer quelques jours chez elle aussitôt que Lady Middleton voudrait les lui céder. On comprend combien Lucie fut heureuse. Aller demeurer chez la sœur d'Edward, qui en l'invitant semblait travailler pour elle. On peut cette fois pardonner à Lucie de se livrer à l'espoir. Une occasion journalière de voir Edward, de gagner l'amitié de sa famille, lui parut une chose si essentielle qu'il ne fallait pas différer. Après avoir fait sentir à sa sœur l'avantage qui pouvait en résulter, elle la fit consentir d'autant plus facilement à quitter les Middleton que le docteur Donavar était aussi le médecin des Dashwood, et de plus lié particulièrement avec John. L'espoir de le voir plus souvent la consola de n'avoir plus à entendre les railleries de Sir George. Elles se préparèrent, dès le lendemain, à aller chez M. Dashwood. Lady Middleton en prit son parti avec l'indifférence qu'elle mettait à tout ce qui ne la regardait pas directement. On comprend qu'à peine Elinor fut arrivée, que Lucie lui montra en triomphe le pressant billet de Fanny, et pour la première fois, elle partagea l'espérance de Lucie. Une telle preuve de bonté, une prévenance si marquée avec de jeunes personnes que Fanny connaissait aussi peu, elle qui d'ordinaire était si peu obligeante, témoignait que l'on avait du moins beaucoup de bonne volonté et de bienveillance, et avec le temps, l'adresse de Lucie, cela pourrait mener à quelque chose de plus. Comme Elinor ignorait le projet que son frère avait eu de les inviter, il ne lui vint pas dans l'idée que Mesdemoiselles Steels eût servi de prétexte à Fanny pour ne pas les recevoir. Elles y allèrent donc dès le lendemain, et furent reçues de manière à laisser tout croire de l'effet de cette préférence. Fanny avait fait sentir à son mari qu'il était très dangereux de rapprocher Elinor d'Edward dans un moment où on traitait de mariage, au lieu que les petites Steels, qu'il connaissait à peine, étaient à tous égards sans danger pour lui. Quant à elle, elle en faisait 2 complaisantes assidues, qui lui arrangeaient ses chiffons, servaient le thé, gouvernaient le feu, ramassaient son mouchoir, amusaient son enfant. Elle trouvait toutes ses attentions serviles très agréables et très commodes. Sir George, qui les allait voir quelquefois, ne parlait que de l'amitié de Madame John Dashwood pour ses petites cousines. Elle était plus enchantée d'elle, et surtout de Lucie, qu'elle ne l'avait jamais été de toute autre jeune personne. Elle ne les appelait plus que sa chère Lucie, sa chère Anna, leur avait fait présent à chacune d'un petit portefeuille d'aiguilles, et disait qu'elle ne savait comment elle ferait pour se séparer de ses aimables, de ses chères amies.